Vous écoutez RTL.
Astre sombre et rocailleux, la Lune ne produit pas de lumière. Dans sa course autour de la Terre, elle se contente de réfléchir les rayons du Soleil.
RTL.
Une éclipse de Soleil se produit lorsque la nouvelle Lune forme un alignement parfait avec le Soleil et la Terre. Pour assister à une éclipse totale de Soleil, il faut se trouver sur la trajectoire de l'ombre lunaire.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une rencontre amoureuse demain dans le ciel. Demain, le Soleil a rendez-vous avec la Lune et nous allons assister un spectacle naturel absolument exceptionnel. Mais cette éclipse, c'est aussi une énigme pour les scientifiques. On va vous raconter pourquoi avec Mathilde Fontaise. Bonsoir.
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 Vous êtes journaliste et vous travaillez au magazine Science et Vie qui consacre un dossier à cet événement et c'est en partenariat avec RTL. Alors on va pas tourner autour du pot ou autour de la Terre. Qu'est-ce qu'on va observer concrètement dans le ciel demain et à quelle heure ?
Alors concrètement, on va dans le ciel demain voir la Lune avancer sur le Soleil et progressivement l'occulter, jusqu'à l'occulter presque complètement, puisque cette éclipse qui a lieu demain, elle est totale, mais pas chez nous. Elle sera à 80% partielle. Donc on va voir la Lune avancer, on va voir un croissant de Soleil, et puis ensuite on va voir la Lune se retirer et repartir. Et ça aura lieu à partir... Ça commencera à 9h30. Alors...
À 9h30 où en France ? Parce que c'est ça, on ne verra pas la même chose en fonction d'où on habite en France.
Oui, voilà, parce que l'ombre se déplace progressivement sur la surface de la Terre. Et donc ça commence, en fait, ça va arriver par le sud-ouest. C'est un peu comme la météo, hein, donc ça arrive par le sud-ouest. Et donc à 9h11, par exemple, ça commencera à Bayonne. Puis ensuite, ça poursuivra. À 9h13, ça commencera à Toulouse et à Bordeaux. À 9h22, à Paris et Dijon. Et ça, c'est le début. C'est-à-dire, ce sera le moment où la Lune commencera à toucher le Soleil pour la première fois. Puis ensuite, ça progressera jusqu'au maximum de l'éclipse, et il aura lieu vers 10h30 en France, avec une différence d'une dizaine de minutes en fonction des endroits. Donc, par exemple, ce sera 10h19 à Bordeaux, et ce sera 10h27 à Lyon, par exemple.
Bon, j'espère que vous avez tous bien noté le calendrier.
Et à Paris, c'est 10h38, c'est ça,
10h29.
Ah, 10h29. Bon, alors, je sais pas d'où sortait le 10h38 de l'un des amis.
Yvan Levaille, oui, qui a voulu nous humilier, mais c'était une fausse information.
Dans la ville où il sera demain,
chacun parle de lui.
Nous, on a les lunettes, qui sont des lunettes Science et Vie et RTL, puisqu'on est en partenariat sur cette opération.
On peut les voir sur RTL.fr, bien sûr. Regardez, elles nous vont très bien. Sur toi, Thomas, d'ailleurs.
Je vois plus rien. Sidonie, vous êtes magnifique.
Un mafieux, Thomas Hugues, avec ses lunettes.
C'est mon côté mafieux. Ça, c'est essentiel, évidemment. On peut commencer par le rappeler.
Si on n'a pas de lunettes,
il ne faut mieux pas la regarder.
Il ne faut pas du tout la regarder parce qu'effectivement, quand la Lune passe devant le Soleil, elle masque une partie de sa lumière, une très grande partie, et ça augmente. Et en fait, on est plus vigilant, l'œil n'est plus ébloui. Donc, on ne détourne plus le regard, mais les rayons dangereux continuent à passer, et notamment les rayons infrarouges. Et il suffit d'une toute petite exposition pour brûler la rétine. Et ces brûlures-là sont irréversibles.
Bon.
Donc c'est vraiment très important de mettre des lunettes, et pas n'importe lesquelles, pas des lunettes de soleil, des lunettes spéciales éclipse.
Parce que moi j'en ai retrouvé dans ma cave des lunettes de 99 de la dernière éclipse. Est-ce qu'elles sont encore valables celles-là ?
Alors non, il vaut mieux pas. On a posé la question effectivement aux spécialistes qui nous ont répondu qu'il pouvait toujours y avoir une petite rayure, une petite déchirure qui pouvait laisser passer une partie des rayons, et toujours pareil sans qu'on s'en aperçoive. Donc il faut vraiment utiliser des lunettes neuves qui sortent de l'emballage.
Donc on radine pas et on achète Science et Vie. On peut les trouver.
C'est pareil avec mes chaussettes. De 99, je les porte plus non plus. Vous disiez 80% en France, c'est dans quel pays ?
Vous portez des chaussettes que pendant les éclipses.
Passons sur cette vanne pourrie. Dans quel pays on pourra la voir à 100% l'éclipse ?
Alors dans peu de pays, puisqu'en fait elle est totale sur une bande très très étroite qui passe dans l'Atlantique Nord. Mais sauf que dans l'Atlantique Nord, c'est sur l'océan, donc il y a très peu de terres émergées qui vont la voir entière.
Ou des marins sur des chalutiers.
Donc on peut imaginer des alignements de chaluts pour essayer de regarder l'éclipse, je ne sais pas.
C'est original. Oui.
Mais en tout cas, les astronomes se précipitent aux îles Féroé. C'est l'un des seuls endroits où on peut le voir. Sinon, il y a une zone aussi tout au nord de la Norvège où on peut la voir. Mais c'est vraiment une toute petite partie.
Et en France, est-ce qu'il y a des villes ou des régions où elle sera plus visible que d'autres ? Vous nous avez fait un peu le décalage horaire de l'éclipse, mais est-ce qu'il y a des régions privilégiées demain matin pour l'éclipse ?
Les gens du Nord sont privilégiés demain. Mm-hmm. D'une part parce qu'ils verront une plus grande éclipse, puisqu'elle sera aux alentours de 60% dans le Sud, alors qu'elle sera aux alentours de 80% dans le Nord. Vous pouvez retrouver toutes les cartes sur le site de Science et Vie. On a détaillé tout ça avec, pour chaque ville, le pourcentage nuages d'obscuration, etc. Mais en plus, il y a une chance de, j'ai une chance supplémentaire pour les gens du Nord, c'est que demain il fera un peu meilleur dans le Nord que dans le Sud. Et dans le Sud, il y aura beaucoup de nuages.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. S'il y a des nuages, ça sert à rien.
S'il y a des nuages, on verra rien. D'autant plus qu'il faut pas s'attendre à un spectacle aussi incroyable que le spectacle de 99. C'est une éclipse partielle et comme même 80% du soleil qui reste, c'est très très lumineux. Donc on n'aura pas la sensation d'obscurité qu'on a, enfin que certains d'entre vous avaient peut-être ressenti en 99 avec cette impression de
monde qui s'arrête,
de monde qui s'arrête. Ouais. Voilà. Là, ça fera pas tout à fait ça. Ça fera plus une ambiance crépusculaire avec une lumière jaune, avec des ombres déformées, mais on n'aura pas cette obscurité complète.
Bon, c'est un spectacle naturel, mais saviez-vous aussi qu'une éclipse c'est un défi scientifique passionnant et que, tiens, par exemple, ça peut provoquer un blackout électrique. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À vos lunettes, demain nous allons assister à un face-à-face rare. La Lune va s'aligner dans l'axe du Soleil et l'éclipser juste quelques minutes. Et le magazine Science et Vive nous donne 5 bonnes raisons de ne surtout pas rater cet événement et d'en profiter. On en parle avec Mathilde Fontaise, journaliste au magazine Science et Vie. C'est vrai que cette éclipse pourrait créer un blackout électrique dans notre pays ou...
C'était la crainte.
En Europe ou dans le monde ?
En Europe, dans notre pays, c'était la crainte de RTE, le réseau de transport d'électricité. Je pense que maintenant c'est plus le cas puisqu'ils se sont préparés justement, ils ont anticipé la chose. Mais c'est vrai que c'est une situation inédite parce que on a d'une part une baisse brutale et soudaine en quelques instants de la lumière, et d'autre part, on a pour la première fois une part d'électricité photovoltaïque importante. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait pas cette part, cette importance des panneaux solaires dans le réseau électrique. Et donc du coup, c'était la première fois qu'on a le réseau entier qui est soumis à une baisse comme ça brutale et importante. Donc
et le réseau voltaïque, c'est ça, ça représente combien la part de production d'électricité qu'on a en
Alors,
France?
En fait, ça représente entre 70 et 80 gigawatts par rapport à une puissance totale de 850 gigawatts, ce qui veut dire que c'est 10% quand même.
Ah oui.
Donc c'est pas rien. Et ce qui est important en fait de comprendre, c'est pas... Bien sûr, quand il y a une journée entièrement nuageuse, les panneaux solaires ne fonctionnent pas, et puis le réseau
Bien
fonctionne
sûr.
Quand même. Mais là, ce qui était difficile à gérer, c'était cette baisse brutale, et sur toute l'Europe en même temps, puisqu'il faut savoir que l'éclipse, elle est visible dans toute l'Europe. Elle est même visible au nord de l'Afrique, donc elle couvre une très très grande région. Et donc dans toute l'Europe, au même moment ou à quelques minutes près, on a une baisse brutale de luminosité. Et c'est ça qui est difficile à gérer pour un réseau qui doit maintenir un volume, une puissance constante en quelque sorte.
Parce que les réseaux électriques européens, ils sont interconnectés en plus. On va chercher de l'électricité ailleurs quand on en manque, c'est ça?
Oui, alors ça non, c'est plutôt ça se gère plutôt par État et donc par
pays
exemple,
par pays, ouais.
Voilà, pays par pays, et donc RTE a géré le problème pour la France en anticipant la chose, en faisant des tests. Donc ils ont fait pendant plusieurs mois des simulations pour essayer d'évaluer comment ça allait pouvoir se passer en fonction aussi de l'ensoleillement, puisque le phénomène est beaucoup plus brutal pour le réseau s'il fait soleil que s'il fait mauvais. Et puis ils ont prévu des solutions pour essayer de pallier au problème. Donc par exemple ils ont prévu de faire préchauffer des centrales à charbon, ils ont prévu de vérifier que les barrages hydrauliques étaient bien à leur maximum pour pouvoir délivrer une énergie qui puisse compenser. Et puis après ils adapteront en fonction de ce qui se passera la puissance électrique autre que photovoltaïque.
Et nous, est-ce qu'il faut qu'on fasse attention demain matin à un peu moins consommer d'électricité?
Bah, en fait,
pour aider RTE à éviter le blackout.
Vous devriez prendre votre douche dans le noir, Thomas, demain, s'il vous plaît.
Merci.
RTE n'a pas donné de consignes, donc je pense que du coup ça doit vouloir dire qu'ils ont réussi à gérer. Mais effectivement, ils se posaient la question quand on en a parlé avec eux il y a un mois et demi. Ils se posaient la question de la réaction de la population, puisque lors de l'éclipse de 99, par exemple, tout le monde était tellement en train de regarder l'éclipse que personne n'a allumé la lumière en fait. Tout le monde voulait être dans le noir. Donc là, peut-être que demain, il se passera exactement la même chose, auquel cas il y aura absolument pas de problème.
Alors cette lune qui s'interpose entre le Soleil et la Terre. J'imagine que ça a un impact sur la nature. Est-ce que pendant ces quelques minutes, la nature va se comporter différemment? Les animaux, Est-ce que les animaux vont aller se coucher, vont se mettre à chasser? Enfin, c'est toutes les questions que je me pose. Les chats vont nous sauter dessus? Enfin bon.
Alors peut-être pas demain, puisque comme je vous le disais, c'est une éclipse partielle pour nous. Donc du coup, on verra pas vraiment tous ces phénomènes qui se produisent plutôt lors du passage à l'obscurité totale, au moment où la lune occulte complètement le soleil. Mais lors d'une éclipse totale, effectivement, tout se passe comme si c'était la fin du jour, le crépuscule. Donc les oiseaux vont dans leur nid, les troupeaux se rassemblent, les plantes, certaines fleurs se referment. On a vraiment, les poissons vont au fond de l'eau. On a vraiment tous les phénomènes de la fin du jour. Et puis ce qui est très rigolo, c'est que donc ça dure que quelques minutes. Donc quand le soleil réapparaît, et ben tout à coup tout reprend vie d'un coup. Et donc le coq chante, par exemple, lorsque le soleil réapparaît.
Ah oui, il chante une deuxième fois dans la journée.
Voilà.
Est-ce que c'est pareil pour les humains? Ils partent se coucher à 10h30 et reviennent après 11h ou...
Bah non, je viens de prendre ma douche sans électricité, je vais pas aller me recoucher tout de suite, c'est pas possible.
Oh là là, vous êtes tellement logique.
Trop rationnel. Mais ce qui est dingue, c'est que vous décrivez un phénomène qui va assez vite. Les plantes ont le temps de commencer à se recroqueviller comme si c'était la nuit?
Oui, les plantes ont le temps, oui, puisqu'on a vraiment une baisse de la luminosité qui est progressive quand même. Il y a un moment d'obscurité qui est assez court, mais la baisse de luminosité est progressive.
On a retrouvé le coq de Sidonie.
Bon. Il chante même à 20h17, je suis désolée, il est complètement déréglé mon coq, parce que je lui ai mis les mauvaises lunettes à la dernière éclipse. Enfin, c'est toute une histoire.
Oui, on voit ça. Alors cette éclipse du 20 mars, donc de demain, c'est aussi l'occasion pour les scientifiques de résoudre une énigme. Moi, je la connaissais pas, je l'ai découverte dans ce Science et Vie en partenariat avec RTL. Celle des ombres volantes, c'est quoi ça?
C'est mystérieux. Hein.
C'est du nom épurel, ça, non?
Ça fait un peu surnaturel. Ouais. Enfin, moi, ce qui m'a paru surnaturel, c'est de se rendre compte qu'un phénomène comme ça, qui est observé depuis des millénaires, soit encore mystérieux, puisqu'on pourrait se dire on a tout résolu, on a tout vu, etc. Mmh. Et en fait, non. C'est un phénomène très étrange qui a longtemps été négligé, parce que, en fait, il est assez difficile à observer. Et les astronomes qui l'observaient, finalement, étaient un peu pris pour des fous. On disait oui, bon, ça, t'as pas vraiment vu, etc. Et donc, il s'agit de raies lumineuses. Donc des raies obscures et claires qui sont successives et qui avancent avec l'ombre de l'éclipse, enfin qui avancent un peu plus lentement en fait, et qui ondulent. Donc on peut les observer soit sur le sol, soit sur un mur blanc par exemple, ou même certaines fois ils sont projetés dans les nuages quand il y a des nuages en bordure de l'éclipse. Et donc bon, pendant longtemps...
On imagine quoi? Juste pour bien visualiser, ouais. des zébrures comme sur un zèbre?
Ça ressemble à des zébrures. C'est des zébrures très légères, c'est assez. Et d'accord. Puis ça scintille un peu, ça ondule un peu. C'est comme un rideau. Les rideaux avec des lamelles en fer, vous voyez, dans
des
lesquelles.
Des persiennes.
Oui, comme des persiennes.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais qui serait très fine et qui vibre.
Et alors, c'est quoi l'explication? On l'a trouvée?
Bah, l'explication est encore non, est pas encore trouvée. Alors, je pense que c'est à la fois la raison, c'est à la fois que c'est un phénomène assez étrange, à la fois que finalement il n'y a pas non plus énormément de scientifiques qui se sont dit je vais faire de ma vie, toute ma recherche de ma vie va être consacrée à l'étude de ce phénomène. Donc il y a encore plusieurs hypothèses qui cohabitent.
Et donc demain sera l'occasion de continuer à travailler, à résoudre cette énigme.
Des ombres volantes.
Une autre énigme, un autre mystère, un autre phénomène qui passionne les scientifiques, c'est la couronne solaire. On vous raconte ça sur RTL dans un instant.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.
RTL.
La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et demain, la lune s'interpose entre la Terre et le soleil pour notre plus grand bonheur et celui des scientifiques. Ce sera demain matin, comme nous l'a expliqué Mathilde Fontaise, qui est journaliste au magazine Science et Vie, qui publie un dossier sur ce thème en partenariat avec RTL. Mathilde Fontaise, sur la planète, il y a combien d'éclipses par an? Et est-ce qu'il y a forcément plusieurs éclipses chaque année?
En fait, c'est pas rare, effectivement. Il y en a plusieurs par an, il y en a minimum 4. Et ces 4 éclipses, c'est pas que des éclipses de soleil, puisqu'il y a aussi des éclipses de lune. Donc les éclipses de lune, c'est quand la lune passe dans l'ombre de la Terre. Mmh. Donc il y a minimum 4 éclipses par an, 2 de lune et 2 de soleil par an sur le globe. Et après, il peut y en avoir jusqu'à 7 dans une même année.
Et alors les prochaines, on les connaît, on sait où elles vont avoir lieu?
La prochaine éclipse, ce sera le 13 septembre 2015. Elle sera partielle et elle sera visible en Antarctique, au sud de l'Afrique et dans l'océan Indien.
Comment on peut être aussi précis? Comment les scientifiques peuvent dire le lieu, l'horaire à la minute près?
Ils peuvent le même le dire à la dixième de seconde près. Mmh. Ils le disent en étudiant, en modélisant le mouvement des planètes dans le système solaire. Et au départ, c'était assez simpliste. Maintenant, ça a atteint des degrés de précision hallucinants. Ce sont des modèles très complexes qui prennent en compte, par exemple, tous les 300 astéroïdes qui gravitent à côté de Mars, toutes les planètes du système solaire, mais aussi les effets très fins de la relativité générale d'Einstein. Enfin, tous ces effets-là sont mis dans un espèce de modèle, dans un grand programme informatique qui fait tourner, qui intègre des lois de la gravitation et toutes les lois de la physique qui font tourner ces astres et qui les font tourner virtuellement pour pouvoir dire après à la fin à quel endroit vont se trouver la Terre, le Soleil, tous les satellites, etc.
Alors aujourd'hui, on prévoit ça avec des ordinateurs, mais quand est-ce que la première fois on a compris ce cycle des éclipses ? C'était il y a très longtemps ?
Alors c'était il y a très très longtemps, au 3e siècle avant Jésus-Christ, déjà les Babyloniens, alors c'est un peu controversé, on a longtemps dit que les Babyloniens avaient été les premiers à vraiment comprendre et prédire les éclipses. En fait, ils avaient compris qu'il y avait un cycle, mais ils ne pouvaient pas prédire vraiment. Le premier qui a mis au point une méthode pour prédire les éclipses, c'était Claude Ptolémée dans l'un des ouvrages de science les plus connus qui s'appelle l'Almageste, et donc c'était au 2e siècle de notre ère, et lui, il a mis au point une méthode de calcul très précise pour déterminer toutes les dates.
Déjà au IIe siècle.
Au IIe siècle. Et cette méthode n'a pas changé jusqu'au XVIIe. Au XVIIe, il y a juste eu un ajout qui était important, c'était celui de représenter la bande de totalité, donc cette zone dans laquelle on voit l'éclipse totale, de la représenter sur une carte pour qu'on puisse vraiment se repérer et savoir où l'éclipse allait avoir lieu. Mais c'est l'apport du XVIIe siècle, donc dès le IIe siècle, on savait le faire. Mais avec une précision bien moins importante, puisqu'on pouvait pas tenir compte de tous les petits effets qui font que les planètes peuvent se décaler un tout petit peu l'une par rapport à l'autre, et du coup, la Lune peut être décalée un tout petit peu, et ça va décaler de quelques dixièmes de seconde le début de l'éclipse.
Est-ce que déjà à l'époque, la couronne solaire, ça intriguait les scientifiques ?
Ah, ils la voyaient pas.
Alors c'est quoi déjà la couronne solaire d'ailleurs ?
La couronne solaire, c'est l'atmosphère du Soleil. C'est quelque chose de gigantesque. Ça fait 1 million de kilomètres, si je me trompe pas, je regarde mes notes.
C'est ça les journalistes scientifiques, c'est très précis.
Non, heureusement, c'est pour ça qu'on l'a invité, Mathilde.
Donc oui, c'est une énorme enveloppe de gaz, comme notre atmosphère à nous autour de la Terre, sauf que la nôtre est très très fine et celle du Soleil est gigantesque. Longtemps, on la voit très bien lors des éclipses, c'est une espèce de halo lumineux assez fin qui entoure l'éclipse et qui produit d'ailleurs énormément de lumière, puisque ce qui fait que quand on a l'éclipse totale, en fait, on a la lumière d'une pleine lune. Donc il reste encore énormément de lumière et elle est diffusée par cette énorme atmosphère. Et cette atmosphère est beaucoup regardée par les chercheurs parce qu'elle est difficile à étudier et on ne peut la voir bien en fait que pendant les éclipses.
Ah d'accord, donc demain matin il y a un enjeu scientifique comme à chaque éclipse pour observer. Quelles leçons on peut en tirer, en quoi c'est intéressant d'observer cette...
En fait c'est intéressant d'observer parce que cette couronne solaire, notamment sa base, c'est-à-dire la partie la plus proche du Soleil, c'est là qu'on peut voir tous les phénomènes de surface prendre leur source. Donc par exemple, vous avez déjà entendu parler des éjections de masse coronale, c'est des espèces d'éruptions solaires gigantesques dont on parle souvent, nous les terriens, parce qu'elles nous importe puisqu'elles arrivent sur nous et elles nous créent des décharges. C'est ça qui crée les aurores boréales, par exemple. Elles créent des décharges électriques dans l'atmosphère. Ces éjections de masse coronale commencent au niveau de la surface du Soleil, et en observant la couronne, on peut comprendre mieux comment elle se forme et ce qui les initie. Sauf qu'il faut pouvoir observer la base de la couronne, et cette base de la couronne, elle n'est visible que pendant les éclipses, puisque sinon la lumière du Soleil est trop importante pour que les télescopes puissent l'occulter et puissent voir ce qui se passe.
Dans votre dossier dans Science et Vie, Mathilde Fontaine, je lis qu'il y a un astrophysicien français qui fait affréter deux Boeing 737 pour observer cette couronne solaire, c'est vrai ?
Il y a deux Boeing, mais en fait, à chaque éclipse, les astronomes, et même d'ailleurs les associations d'astronomie amateurs, hein, pas simplement les professionnels, affrètent des Boeing pour aller justement suivre l'éclipse, puisqu'en fait, en avion, on peut maximiser le temps d'obscurité et on peut suivre l'éclipse encore mieux. D'autant plus qu'on est élevé, donc on est souvent au-dessus des nuages et on n'est pas embêté par la météo. Donc à chaque éclipse, c'est la course.
Donc ça veut dire qu'ils vont faire le trajet depuis Bayonne jusqu'au...
Eux, ils vont aller dans la bande de totalité, donc ils ne vont pas du tout aller en France.
En mer en Atlantique.
Ils vont aller dans l'Atlantique.
Ah d'accord, ils vont aller là où elle sera totale.
Pour tout savoir sur l'éclipse, c'est dans Science et Vie. Merci infiniment Mathilde Fontaine, c'est un plaisir de vous avoir. Et surtout, ne regardez pas l'éclipse directement et n'essayez pas de faire des photos, vous allez vous brûler les yeux.
Voilà, mettez des lunettes.
Vous écoutez RTL.